Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a dit que la Palestine était le cœur de la politique étrangère indonésienne. Le président a souligné l'importance d'avoir la vision pour les jeunes officiers. Le Parlement sud-africain a soutenu l'Indonésie pour augmenter le commerce. Et enfin, le président du groupe de la Banque mondiale visite l'Indonésie. Voici le journal complet. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie deviendra l'un des principaux pays qui encouragent de créer la paix et l'indépendance palestinienne. Cette question a été déclarée à la suite d'une escalade de conflit dans la mosquée Al-Aqsa récemment. La situation chaude en Palestine, en particulier dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa, invite les préoccupations indonésiennes. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir assisté à la réunion plénière du cabinet de travail, lundi au Palais d'État Jakarta, a déclaré, dans une communication étant établie avec les différents partis, le gouvernement indonésien a souligné l'importance de la récupération et des droits de culte pour les musulmans de Palestine. Selon la ministre, les restrictions sur les droits des musulmans palestiniens pour prier dans la mosquée Al-Aqsa est actuellement une priorité de l'Indonésie dans son achèvement. En outre, la ministre a déclaré que la Palestine était devenue le cœur de la politique étrangère de l'Indonésie, dont l'Indonésie soutenait la création de l'indépendance qui était le droit de tous les peuples et l'élimination du colonialisme. L'Indonésie deviendra l'un des principaux pays qui continueront à encourager la paix et l'indépendance palestinienne.
Jadi, hampir setiap hari kita melakukan komunikasi dengan banyak pihak.
Presque tous les jours, nous communiquons avec beaucoup de gens la même préoccupation. Maintenant, nous allons vers une plus technique, en particulier sur les dispositions ou la restauration des droits de culte. Par conséquent, celui qui devient notre préoccupation est la limitation des droits de culte des musulmans à Al-Aqsa. Donc, encore une fois, la question palestinienne est au cœur de la politique étrangère de l'Indonésie, parce qu'il est le mandat de notre constitution. Et il y a toujours un palestinien dans chaque souffle de notre politique étrangère. Et pour adresser et d'aligner à nouveau cette question, nous serons parmi l'avant-garde de la lutte pour la Palestine, aide à la cause palestinienne. Selon la ministre Retno Marsudi, elle a communiqué avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, et a insisté à l'OCI d'organiser une réunion spéciale entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI pour discuter de la situation en Palestine. L'Indonésie a enregistré les points qui seront livrés si la réunion peut être organisée immédiatement. En outre, à la réunion de l'OCI qui aura lieu la semaine prochaine, la ministre Retno Marsudi encouragera la création de la protection internationale vers les pays dans le monde qui l'a été inventée lors de la réunion spéciale de l'OCI à Jakarta en 2015. Ceci pour que les événements qui se sont produits dans la mosquée Al-Aqsa ne se produisent pas à l'avenir. Le président Joko Widodo donne des connaissances à la future jeune officière au Capaja et de l'Académie de TNI et de la police de l'année 2017 au centre de sport Ahmad Yani Cilangkap, Jakarta. Le président est accompagné par le ministre coordinateur de la politique, de la loi et de la sécurité, Wiranto, le ministre de la Défense, Riaminja Triakudu, le commandant en chef de TNI, Gatot Nurmantio, le chef de la police indonésienne, Tito Karnavian, le secrétaire du cabinet, Pramono Anung, assisté également le chef d'état-major de l'armée aérienne, le général d'armée aérienne Hadi Cahyanto, le chef d'état-major de l'armée de terre, Mulyono, et le chef d'état-major de la marine, l'amiral Ade Supandi. Dans son discours, le président Joko Widodo a affirmé aux futurs jeunes officiers des académies militaires et de la police d'avoir une vision de l'avenir. Le président a souligné le développement de politique économique, la défense et la sécurité sont dynamiques et évoluent en accord avec le développement des temps. Ils sont inaugurés au palais d'État. Ils étaient jeunes, c'est-à-dire ils doivent avoir la vision à l'avenir. Comme je l'ai déjà dit, que le paysage de la politique mondiale, l'économie mondiale, la menace de défense et de sécurité auraient été changées qui doivent être anticipées à partir de maintenant. En fait, par exemple, nous avons jugé que s'il est encore nécessaire pour les réservoirs, par exemple, si elle peut être transformée en drone et la cybersécurité est nécessaire pour cela. C'est parce qu'il est en grand pays avec 17 000 îles, c'est-à-dire que c'est nécessaire les petits et les grands drones pour surveiller la frontière et regarder des choses suspectes, par exemple, dans la mer. Est-ce que c'est le navire ou tout autre, si bien que nous commençons à penser ces changements dès maintenant. Est-ce que nous nécessitons encore des autres réservoirs ou nous devons changer? Les jeunes officiers doivent posséder ces visions et même le changement est très rapide maintenant. Outre d'avoir la vision progresse d'envisager le défi du changement de l'époque, le président Joko Widodo a souligné également la grande importance de la dévotion des candidats jeunes officiers à la nation. Il a dit qu'être un futur jeune officier comme dévotion suprême à la République unitaire d'Indonésie. 728 futurs jeunes officiers des académies militaires et de la police ont assisté à la séance d'information du président. Ils se composent les cadets de l'académie militaire, les cadets de l'académie navale, les cadets de l'armée aérienne, les cadets de l'académie nationale de défense du Japon et ceux de la police. L'Indonésie d'accueillir la formation de la réunion d'Asie et d'Europe ou ASEM sur la question des droits de l'homme et handicapés. C'est ce qu'a affirmé le directeur des droits de l'homme et de l'humanité du ministère des Affaires étrangères, Diki Komar, à l'ouverture d'une formation des droits de l'homme intitulée « Droits de l'homme et des handicapés » organisée dans le cadre de l'événement ASEM à Jakarta du 24 au 28 juillet 2017. Diki Komar a affirmé que cette formation était l'une des formes de l'engagement de l'Indonésie comme pays des parties de la Convention des droits des handicapés et une contribution active de l'Indonésie sur le schéma de la coopération d'ASEM. Il a dit que la formation vise à faciliter les parties prenantes des questions des droits de l'homme et des handicapés, d'échanger des expériences et d'augmenter la capacité dans la construction du mécanisme de respect des handicapés au niveau national, régional et international. 36 participants et entraîneurs de 22 pays d'Asie et d'Europe ont participé à cette formation. Le ministre du Commerce, Enggartia Stolokita, a déclaré « Les membres du Parlement et plusieurs États fédéraux sud-africains ont soutenu les intérêts de l'Indonésie pour améliorer les relations commerciales entre les deux pays. L'un d'eux est lié à l'étude non tarifaire. » C'est ce qu'a affirmé Enggartia Stolokita à Lagos dimanche heure locale. L'accord lié à l'étude non tarifaire existe après que les deux pays font le comité mixte de commerce. L'un des points qui sera fait dans cette étude par les deux pays est le degré d'adéquation entre la structure d'import-export entre l'Indonésie et l'Afrique du Sud et vice-versa. Le ministre du Commerce effectue une visite de travail en Afrique du Sud et le Nigeria pour améliorer les relations commerciales avec l'Indonésie. L'Indonésie veut que l'Afrique du Sud puisse commencer les négociations relatives à l'accord commercial préventiel de l'Union douanière d'Afrique australe, SACU-ZEP. SACU se compose de 5 pays, à savoir le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et l'Afrique du Sud. l'une des options offertes par le ministre du Commerce et de l'Industrie de l'Afrique du Sud, Rob Davis, est d'ouvrir des opportunités d'exportation de bœuf et de la viande bovine vers l'Indonésie. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, visite Jakarta, l'Indonésie, lors d'une visite de 2 jours pour discuter des réformes politiques afin d'accroître les recettes et de promouvoir l'efficacité des dépenses sur les infrastructures et les ressources humaines. Cela a été dit par Jim Yong Kim dans un communiqué reçu par Antara lundi. Au cours de la visite du 25 au 26 juillet 2017, Jim Yong Kim rencontrera le président Joko Widodo, le vice-président Yusuf Kalla, la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati et des autres ministres. Selon le plan, Kim participera au forum de financement des infrastructures qui vise à impliquer les parties prenantes dans le secteur public et privé afin de mobiliser des fonds pour le développement des infrastructures. Le forum de financement et des infrastructures tenu mardi le 25 juillet fait partie d'une série d'événements de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui aura lieu en octobre 2018 à Bali. Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les tamusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de 3 villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, voici donc le commentaire et en pour le titre « L'urgence de drogue ». Lundi, le 24 juillet 2017, le chef de l'Agence nationale antinarcotique ou le BNN de la province de Java Ouest, le général de brigade Rusnadi, a déclaré qu'à Java Occidental, les cas de stupéfiants ou d'abus continuent d'augmenter, basés sur les données de la police régionale de 2015 à 2017. La tendance continue à augmenter et la marijuana est encore un type de stupéfiant qui est largement utilisé car il est facilement obtenu et produit en Indonésie. La hausse de l'usage de drogue et de sa circulation qui ne peut pas être complètement éradiquée est devenue une préoccupation commune de la nation indonésienne. De plus, la traite illicite de drogue qui est entrée en Indonésie illégalement de diverses façons est de plus en plus répandue. Pour la résoudre, les informations de la communauté sont nécessaires pour empêcher le trafic de drogue. Cela s'est avéré être le début de la distribution de médicaments aux mains des consommateurs. La guerre à la drogue continuera jusqu'à disparaître complètement l'Indonésie. La socialisation sur les drogues par le gouvernement était principalement menée par les écoles. Le gouvernement demande aux parents et aux enseignants de s'ouvrir et d'accorder une attention particulière aux enfants. On le croit, il peut empêcher les enfants de tomber dans diverses maladies sociales, y compris l'abus de drogue. Mais l'éradication et la prévention de l'abus de drogue ne sont pas aussi faciles que de tourner le palmier à main. Diverses lois et règlements ont été émis. Mais la mafia et le cerveau du trafic de drogue semblent distribuer de plus en plus de drogue, même si le gouvernement a appliqué des règles strictes. Il semble que le gouvernement et le peuple indonésien doivent travailler plus fort pour éradiquer les drogues. La guerre à la drogue n'est pas terminée. L'état de l'urgence des médicaments n'a pas pris fin. Cher Luther, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs de TIS, voici l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition 25 juillet. On va commencer le 25 juillet 1950, la dissolution de l'armée royale des Antilles néerlandaises. Voici l'histoire d'aujourd'hui complète. Le 25 juillet 1950, la dissolution de l'armée royale des Antilles néerlandaises ou abrégé CNIL, après la mort de Simon Spoor le 25 mai 1949, Dirk Buurman van Vreden a été nommé le dernier commandant de CNIL. Avec la création de la République d'Indonésie et l'armée nationale indonésienne, ainsi que la reconnaissance de la souveraineté indonésienne des Pays-Bas le 27 décembre 1949, en 1950, CNIL a été démantelé par la décision royale néerlandaise le 20 juillet 1950. Le 25 juillet 1950, Dirk Buurman van Vreden a soumis le quartier général de l'armée royale des néerlandaises au colonel Abdul Haris Nasution comme chef de l'armée de terre de l'armée nationale indonésienne. L'effraction du quartier général de CNIL a officiellement marqué la dissolution de CNIL. Le 25 juillet 1966, la formation du cabinet Ampera Ang. Le cabinet a été annoncé directement par le lieutenant général Suharto en tant que président du présidium du cabinet avec l'approbation du président Sukarno. La formation du cabinet Ampera vise à réaliser la troisième demande de Trikora, c'est l'amélioration de l'économie. Les tâches principales du cabinet Ampera est de créer la stabilité politique et économique. Les autres programmes de travail sont l'amélioration de la vie des personnes, en particulier des vêtements et de la nourriture, procéder aux élections générales, mener une politique étrangère indépendante et active pour l'intérêt national, et de continuer la lutte contre l'impérialisme et le colonialisme sous toutes ses formes et manifestations. On termine le 25 juillet 1993. Les troupes israéliennes ont attaqué le sud du Liban. Les attaques ont été lancées à partir de la terre, la mer et de l'air. Ils visent à atteindre le territoire d'Israël illégalement. Dans cette attaque, 128 morts, 500 blessés et plus de 400 000 personnes sont devenues des réfugiés. Les forces de Hezbollah libanais en 2000 ont réussi à expulser les troupes israéliennes du sud du Liban. Ces auditeurs de TIS, c'était notre histoire d'aujourd'hui ce soir de l'édition 25 juillet. À demain.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers journalistes auditeurs de la Voix de l'Indonésie, voici le focus et le titre « L'Indonésie, l'hôte de la formation de la SEAM ». L'Indonésie, l'hôte de la formation de la Réunion de l'Asie-Europe, ASEAM, tenue à Jakarta du 24 au 28 juillet 2017. Cette formation a soulevé la question des droits de l'homme et des personnes handicapées. Comme cité par l'agent de presse Antara, le directeur des droits de l'homme et humanitaire du ministère des Affaires étrangères, Diki Omar, qui a assuré l'inclusivité des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie, non seulement de leurs devoirs du gouvernement, mais aussi toutes les parties prenantes. La formation est la forme de l'engagement de l'Indonésie en tant que l'État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la forme de la contribution active de l'Indonésie dans le cadre de la coopération ASEAN. Les participants pendant 5 jours recevront la formation sur les instruments, les principes et le cadre des droits de l'homme complet. La formation vise également l'amélioration des compétences et de la capacité de la formulation et la mise en œuvre des politiques pour les droits des personnes handicapées. Les participants vont voir aussi la pratique et la formation lors d'une visite au Centre de réadaptation professionnelle Bina Daksa à Cibinong, Java de l'Ouest. Cette formation ASEAN vise à faciliter les parties prenantes des questions relatives aux droits de personnes handicapées pour échanger des expériences et d'augmenter la capacité dans la construction du mécanisme de respect des personnes handicapées au niveau national, régional et international. La formation ASEAN est participée par 36 participants et entraîneurs de 22 pays en Asie et en Europe. Diki Komara a expliqué que l'Indonésie, comme l'hôte de la formation des droits de l'homme de l'ASEAN, reflète l'appréciation et la confiance des parties prenantes en Asie et en Europe pour leur engagement et de l'effort réel en Indonésie dans la promotion et le respect des droits de personnes handicapées dans le cadre national. En devenant un État partie à la Convention relative aux droits de personnes handicapées, les questions de handicap font partie de la priorité nationale indonésienne. Diki Komar espère que cette activité peut encore renforcer la compréhension mutuelle, la coopération, le réseau et le partenariat ouvert et constructif entre l'Asie et l'Europe sur la question des droits de l'homme, en particulier parmi les fonctionnaires de l'État et les ONG. La formation des droits de l'homme et des personnes handicapées est organisée en partenariat du ministère des Affaires étrangères, la Fondation Nasi Europe, la Société pour les personnes handicapées en Indonésie et la Fondation Mahkota d'Indonésie. Cette réunion est la suite du 16e séminaire ASEAN pour les droits de l'homme, personnes handicapées et les droits de l'homme à Pékin l'an dernier. Chers auditeurs et auditeurs de la Voix de l'Indonésie, c'était le focus pour ce soir.
La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'Indonésie deviendra l'un des principaux pays qui encourage de créer la paix et l'indépendance palestinienne. Cette question a été déclarée à la suite d'une escalade de conflit dans la mosquée Al-Aqsa récemment. La situation chaude en Palestine, en particulier dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa, invite les préoccupations indonésiennes. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir assisté à la réunion plénière du cabinet de travail, lundi au Palais d'État Jakarta, a déclaré, dans une communication étant établie avec les différents partis, le gouvernement indonésien a souligné l'importance de la récupération et des droits de culte pour les musulmans de Palestine. Selon la ministre, les restrictions sur les droits des musulmans palestiniens pour prier dans la mosquée Al-Aqsa est actuellement une priorité de l'Indonésie dans son achèvement. En outre, la ministre a déclaré que la Palestine était devenue le cœur de la politique étrangère de l'Indonésie, dont l'Indonésie soutenait la création de l'indépendance qui était le droit de tous les peuples et l'élimination du colonialisme. L'Indonésie deviendra l'un des principaux pays qui continueront à encourager la paix et l'indépendance palestinienne.
Jadi, hampir setiap hari kita melakukan komunikasi dengan banyak pihak.
Presque tous les jours, nous communiquons avec beaucoup de gens la même préoccupation. Maintenant, nous allons vers une plus technique, en particulier sur les dispositions ou la restauration des droits de culte. Par conséquent, celui qui devient notre préoccupation est la limitation des droits de culte des musulmans à Al-Aqsa. Donc, encore une fois, la question palestinienne est au cœur de la politique étrangère de l'Indonésie, parce qu'il est le mandat de notre constitution. Et il y a toujours un palestinien dans chaque souffle de notre politique étrangère. Et pour adresser et d'aligner à nouveau cette question, nous serons parmi l'avant-garde de la lutte pour la Palestine et à la cause palestinienne. Selon la ministre Retno Marsudi, elle a communiqué avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, et a insisté à l'OCI d'organiser une réunion spéciale entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI pour discuter de la situation en Palestine. L'Indonésie a enregistré les points qui seront livrés si la réunion peut être organisée immédiatement. En outre, à la réunion de l'OCI qui aura lieu la semaine prochaine, la ministre Retno Marsudi encouragera la création de la protection internationale vers les pays dans le monde qui l'a été inventée lors de la réunion spéciale de l'OCI à Jakarta en 2015. Ceci pour que les événements qui se sont produits dans la mosquée Al-Aqsa ne se produisent pas à l'avenir. Le président Joko Widodo donne des connaissances à la future jeune officière au Capaja et de l'Académie de TNI et de la police de l'année 2017 au Centre de sport Ahmad Yani Cilangkap, Jakarta. Le président est accompagné par le ministre coordinateur de la politique, de la loi et de la sécurité, Wiranto, le ministre de la Défense, Riaminza Triakudu, le commandant en chef de TNI, Gatot Nurmantio, le chef de la police indonésienne, Tito Karnavian, le secrétaire du cabinet, Pramono Anung, assisté également le chef d'état-major de l'armée aérienne, le général d'armée aérienne Hadi Cahyanto, le chef d'état-major de l'armée de terre Mulyono et le chef d'état-major de la marine, l'amiral Ade Supandi. Dans son discours, le président Joko Widodo a affirmé aux futurs jeunes officiers des académies militaires et de la police d'avoir une vision de l'avenir. Le président a souligné le développement de politique économique, la défense et la sécurité sont dynamiques et évoluent en accord avec le développement des temps. Ils sont inaugurés au palais d'État. Ils étaient jeunes, c'est-à-dire ils doivent avoir la vision à l'avenir. Comme je l'ai déjà dit, que le paysage de la politique mondiale, l'économie mondiale, la menace de défense et de sécurité auraient été changées qui doivent être anticipées à partir de maintenant. En fait, par exemple, nous avons jugé que s'il est encore nécessaire pour les recevoir, par exemple, si elle peut être transformée en drone et la cybersécurité est nécessaire pour cela. C'est parce qu'il est un grand pays avec 17 000 îles, c'est-à-dire que c'est nécessaire les petits et les grands drones pour surveiller la frontière et regarder des choses suspectes, par exemple, dans la mer. Est-ce que c'est le navire ou tout autre, si bien que nous commençons à penser ces changements dès maintenant. Est-ce que nous nécessitons encore des autres réservoirs ou nous devons changer? Les jeunes officiers doivent posséder ces visions et même le changement est très rapide maintenant. Outre d'avoir la vision progresse d'envisager le défi du changement de l'époque, le président Joko Widodo a souligné également la grande importance de la dévotion des candidats jeunes officiers à la nation. Il a dit qu'être un futur jeune officier comme dévotion suprême à la République unitaire d'Indonésie. 728 futurs jeunes officiers des académies militaires et de la police ont assisté à la séance d'information du président. Ils se composent les cadets de l'académie militaire, les cadets de l'académie navale, les cadets de l'armée aérienne, les cadets de l'académie nationale de défense du Japon et ceux de la police. L'Indonésie d'accueillir la formation de la réunion d'Asie et d'Europe au ASEM sur la question des droits de l'homme et handicapé. C'est ce qu'a affirmé le directeur des droits de l'homme et de l'humanité du ministère des Affaires étrangères, Diki Komar, à l'ouverture d'une formation des droits de l'homme intitulée « Droits de l'homme et des handicapés » organisée dans le cadre de l'événement ASEM à Jakarta du 24 au 28 juillet 2017. Diki Komar a affirmé que cette formation était l'une des formes de l'engagement de l'Indonésie comme pays des parties de la Convention des droits des handicapés et une contribution active de l'Indonésie sur le schéma de la coopération d'ASEM. Il a dit que la formation vise à faciliter les parties prenantes des questions des droits de l'homme et des handicapés, d'échanger des expériences et d'augmenter la capacité dans la construction du mécanisme de respect des handicapés au niveau national, régional et international. 36 participants et entraîneurs de 22 pays d'Asie et d'Europe ont participé à cette formation. Le ministre du Commerce, Enggartias Tolukita, a déclaré « Les membres du Parlement et plusieurs États fédéraux sud-africains ont soutenu les intérêts de l'Indonésie pour améliorer les relations commerciales entre les deux pays. L'Inde est liée à l'étude non tarifaire. » C'est ce qu'a affirmé Enggartias Tolukita à Lagos dimanche heure locale. L'accord lié à l'étude non tarifaire existe après que les deux pays fondent le comité mixte de commerce. L'un des points qui sera fait dans cette étude par les deux pays est le degré d'adéquation entre la structure d'import-export entre l'Indonésie et l'Afrique du Sud et vice-versa. Le ministre du Commerce effectue une visite de travail en Afrique du Sud et le Nigeria pour améliorer les relations commerciales avec l'Indonésie. L'Indonésie veut que l'Afrique du Sud puisse commencer les négociations relatives à l'accord commercial préventiel de l'Union douanière d'Afrique australe, SATU-ZEP. SATU se compose de 5 pays, à savoir le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et l'Afrique du Sud. L'une des options offertes par le ministre du Commerce et de l'Industrie de l'Afrique du Sud, Rob Davis, est d'ouvrir des opportunités d'exportation de vaches et de la viande bovine vers l'Indonésie. Le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, visite Jakarta, l'Indonésie, lors d'une visite de 2 jours pour discuter des réformes politiques afin d'accroître les recettes et de promouvoir l'efficacité des dépenses sur les infrastructures et les ressources humaines. Cela a été dit par Jim Yong Kim dans un communiqué reçu par Antara lundi. Au cours de la visite du 25 au 26 juillet 2017, Jim Yong Kim rencontrera le président Joko Widodo, le vice-président Yusuf Kalla, la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati et des autres ministres. Selon le plan, Kim participera au forum de financement des infrastructures qui vise à impliquer les parties prenantes dans le secteur public et privé afin de mobiliser des fonds pour le développement des infrastructures. Le Forum de financement et des infrastructures tenu mardi le 25 juillet fait partie d'une série d'événements de la réunion annuelle du Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui aura lieu en octobre 2018 à Bali. Secrétaire, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de 3 villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré. 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel et cette fois, je vais présenter le village touristique de Kandri. Le gouvernement de la ville de Semarang prépare un village touristique Kandri à Gunung Pati, Semarang, en tant que destination internationale. On va préparer 2 ans d'hébergement ses habitants avec 355 chambres au village touristique de Kandri. Toutes les infrastructures de soutien seront préparées, la route d'accès à l'emplacement, la disponibilité des eaux propres jusqu'à le théâtre des arts. En fait, le village Kandri était fixé village touristique depuis longtemps car la ville possède des caractéristiques distinctives. Jusqu'à présent, les gens adhèrent encore à la tradition et à la culture de leur ancêtre. En plus de la nature du village si beau, pas étonnant que beaucoup de touristes s'intéressent à voyager au village touristique de Kandri. Le village de Kandri est situé dans le district de Gunung Pati, à l'extrémité ouest de la ville de Semarang, capitale de Java Central. Sa location dans les hauts plateaux et près de la montagne Ungaran fait ce village d'avoir l'air frais. Si l'accès à l'aide d'un véhicule, un voyage au village de Kandri de Semarang prend environ 30 jusqu'à 45 minutes. Ce village a 3797 habitants. Donc, la majorité travaille comme agriculteur. En outre, au village de Kandri, il y a aussi l'artisanat de batik, la broderie et la culture de l'angui. Passer des vacances au village de Kandri, vous pouvez choisir vos activités. Le village est divisé en 4 rukun warga ou RW, soit association de quartier et 26 rukun tetangga ou RT, soit association de voisins. Ces 4 RV ont leurs caractéristiques respectives. À RV1, vous pouvez suivre l'enseignement agricole, à savoir planter et prendre soin de riz, le manioc et la papaye. Même si la saison de la récolte à venir, vous pouvez également prendre part à la récolte. À RW2, vous pouvez faire des activités sortant. RW3 est un centre d'art de la danse et il y a la grotte de Kriou. À RW4, vous pouvez profiter d'une variété de produits agricoles culinaires, notamment le manioc traité. Vous pouvez voir et suivre la pratique de faire getuk et tivul. Donc, si vous voyagez au village de Kandri, vous pouvez voir le processus de plantation, entretien, la récolte, la transformation en une variété de préparation culinaire. En plus de faire des activités avec les résidents locaux, vous pouvez également visiter les attractions touristiques du village Kandri, comme la grotte de Créo et le réservoir Jati Barang. La grotte de Créo est encore étroitement liée à l'histoire dans le processus de développement de la mosquée de Mak par Sunan Kalijaga, alors que le réservoir Jati Barang est un réservoir artificiel qui a été délibérément mis en place pour améliorer le potentiel touristique du village. Parce que l'activité touristique au village de Kandri ne suffit pas de faire dans un jour, vous pouvez rester chez les habitants du village. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler l'indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Kamu sekarang ada di mana ?» Je répète, « Kamu sekarang ada di mana ?» En français, « Où êtes-vous maintenant ?» Je vais introduire le vocabulaire et expressions reliés au sujet d'aujourd'hui. Sampai. Sampai. En français, arriver. Dimana. Dimana. En français, où. Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Bertemu. Bertemu. En français, rencontrer. Dimol. Di mall, en français, au centre commercial. Jam lima sore. Jam lima sore. En français, à 5 heures après-midi. Tentu saja. Tentu saja. En français, bien sûr. Setengah jam. Setengah jam. En français, demi-heure. Menunggu. Menunggu. En français, attendre. Sebetulnya. Sebetulnya. En français, en fait. Tepat waktu. Tepat waktu. En français, à l'heure. Di depan. Di depan. En français, devant. Kecelakaan. Kecelakaan. En français, accident. Jalan tol. Jalan tol. En français, route à péage. Macet. Macet. En français, embouteillage. 15 minutes. 15 minutes. En français, 15 minutes. Hati-hati. Hati-hati. En français, prudence. Mengemudi. Mengemudi. En français, conduire. Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Kamu sekarang ada di mana ?» ou en français « Où êtes-vous maintenant ?» Et comme d'habitude, je vais prononcer lentement phrase par phrase deux fois. C'est une conversation entre Anna A et Hari B au téléphone. A, allô. En français, allô. Hari, dimana kamu? Hari, dimana kamu? En français, Hari, où êtes-vous? B, saya masih di jalan. Saya masih di jalan. En français, je suis encore sur la route. A, kamu ingatkan, hari ini kita akan bertemu di mall jam 5 sore. Kamu ingatkan, hari ini kita akan bertemu di mall jam 5 sore. En français, vous souvenez-vous, aujourd'hui nous allons rencontrer au centre commercial à 5h après-midi. B, tentu saja saya ingat. Tentu saja saya ingat. En français, bien sûr, je me souviens. Sekarang sudah jam 5. Sekarang sudah jam 5. En français, il est déjà 5h. Saya sudah menunggu setengah jam. Saya sudah menunggu setengah jam. En français, je vous ai attendu pendant une demi-heure. Sebetulnya, saya bisa sampai tepat waktu. Sebetulnya, saya bisa sampai tepat waktu. En français, en fait, je pourrais arriver à l'heure. Tetapi ada kecelakaan. Tetapi ada kecelakaan. En français, mais il y avait un accident. Jadi ada kemacetan di jalan tol. Jadi ada kemacetan di jalan tol. En français, ainsi il y a des embouteillages sur la route à péage. Mungkin saya akan tiba dalam 15 menit. Mungkin saya akan tiba dalam 15 menit. En français, peut-être j'arriverai dans 15 minutes. A. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. En français, soyez prudent sur la route. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci à tous et au revoir.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci à écouter La Voix d'Indonésie à Jakarta. Voici le magazine musical qui s'agit des musiques traditionnelles et pop d'Indonésie. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ca.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop de Dangdut de l'Indonésie qui s'appelle Iis Dahlia. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée Jomblo Senior. Bonne écoute.
Nikmatnya bercinta.
Chers auditeurs, c'était la chanson d'Is Dahlia intitulée Jomblo Senior. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Chers auditeurs, il y a quelques jours, une chanteuse de dangdut Is Dahlia a récemment sorti un nouvel album intitulé The Best of Is Dahlia pour célébrer les 30 ans de sa carrière. L'album produit par Hadi Sunyoto est une compilation de ses meilleures chansons. En outre, cet album est devenu un moyen de prouver qu'à ce jour, elle était active au travail et d'exister en tant que chanteuse de dangdut. Basé sur ses chansons qui sont résumées dans l'album The Best of Is Dahlia, sa capacité vocale n'est pas doutée. Elle pourrait bien chanter les chansons de dangdut classique, Malé, Onwang, The Land. Il y a 12 chansons et 2 titres bonus dans cet album. Bon, secrétaire, avant de connaître mieux Is Dahlia, voici sa chanson suivante intitulée Cinta Apalah Apalah. Bonne écoute.
Cinta kita apalah, rindu kita juga apalah, semua rasa ini apalah, hubungan tak jelas ya sudahlah, biarlah aku bagi.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.